Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux. Je suis très heureux d'accueillir ici Noam Chomsky au nom du monde diplomatique, de l'Association des Amis du Monde Diplomatique qui a assuré bénévolement l'essentiel de l'organisation de cette réunion, et en votre nom à tous. Cela fait plus de 25 ans que Noam Chomsky n'était pas venu en France. Non pas par accident, on peut l'avouer, il n'apprécie pas trop la scène intellectuelle française, son moralisme hypocrite, la place qu'elle consacre à des penseurs de petit calibre, penseurs presque toujours situés dans un même spectre idéologique très étroit. Nous non plus. Il n'est pas très étonnant que ce petit groupe de gardes-barrières, les gatekeepers en anglais, ait entendu éloigner Chomsky de ses nombreux lecteurs français potentiels. Car au fond, sa parole et ses écrits ont contredit presque point par point ce qu'eux-mêmes entendaient faire de la pensée et de la politique, en France, mais aussi ailleurs. Ce qui, au début des années 80, défendait les tyrannies pro-occidentales en Amérique centrale, au nom de ce qu'ils appelaient le combat pour le monde libre, pour les droits de l'homme, ce qui signait des pétitions de soutien à Ronald Reagan, largement relayées par la presse française, ne pouvait pas voir d'un très bon œil le travail de Noam Chomsky. Dans un texte pétition publié le 21 mars 1985, Bernard-Henri Lévy, Patrick Vachsmann, Jean-François Revel, Emmanuel Leroy-Ladurie et beaucoup d'autres annonçaient dramatique que le grand combat antitotalitaire se jouait en Amérique latine et plus précisément au Nicaragua. La junte sandiniste, je cite le texte, petit commentaire ici, il ne s'agissait pas d'une junte, mais d'un gouvernement légal qui venait de remporter les élections et qui affrontait une insurrection armée d'extrême droite, la Contra, financée par les États-Unis. La junte sandiniste, donc, n'a jamais caché que son but est l'intégration de toute l'Amérique centrale en une seule et même entité marxiste-léniniste. C'est précisément l'objectif recherché par la stratégie soviétique, forcer les États-Unis à se retirer des régions qui représentent une importance vitale pour eux-mêmes et le monde libre. Fin de citation de cette pétition de 1985. Au même moment, les États-Unis, la CIA dans le cas d'espèce, finançaient les escadrons de la mort au Guatemala, escadrons à l'origine actifs dans une répression sauvage qui provoqua la mort de 200 000 personnes. Pour l'essentiel, des Mayas, victimes d'une guerre d'extermination parce qu'ils étaient soupçonnés d'être favorables à des groupes insurgés de gauche. Là, nos intellectuels et les médias ne se mobilisèrent pas. La pétition de soutien à l'extrême droite nicaraguayenne date d'il y a 25 ans. Depuis, les mêmes et de nouvelles générations d'intellectuels médiatiques conservateurs ont exercé une véritable police de la pensée, soutenue par la plupart des grands journaux dans lesquels ces grands penseurs conservent table ouverte. Ces intellectuels pour médias ont successivement soutenu la guerre du Golfe en 1991, celle du Kosovo en 1999, celle d'Afghanistan en 2001. Certains ont même appuyé la guerre d'Irak 2 ans plus tard. Avouons-le, les guerres humanitaires, l'humanitarisme de guerre, les frappes chirurgicales, les bavures nécessaires et tous ces autres termes orwelliens ont un peu moins la cote en ce moment. Les désastres de la présidence Bush auront au moins servi à ça. Et de ce fait, Noam Chomsky a moins mauvaise réputation qu'avant. Longtemps, ces éditeurs furent rares. Il leur fallait bien du courage pour oser publier Noam Chomsky. Il y avait Akrasi et Agon, c'était à peu près tout. Dorénavant, tout le monde ou presque publie Chomsky ou aimerait le faire. Longtemps, les seuls médias qui évoquaient ses travaux furent des périodiques libertaires. Et puis, pour l'essentiel, Le Monde diplomatique et l'émission de Daniel Mermet, Là-bas, si j'y suis. Dorénavant, Chomsky est très demandé. Même Le Point, l'hebdomadaire qui compte Claude Imbert, Alain Duhamel et Bernard-Henri Lévy au nombre de ses chroniqueurs réguliers, un choix de gourmet, même Le Point entend publier un entretien avec Chomsky. Sur ce plan, au moins, les choses changent. Pourtant, la règle habituelle, après l'ostracisme, le silence, la récupération, ne risque pas, je crois, de s'appliquer à Noam Chomsky. Car il est à bien des égards, pour reprendre un mot fameux de Sartre dans Les mains sales, non récupérable. Non récupérable parce qu'il s'en prend au cœur du système, à son moteur. Ce que le système fait et pour qui il le fait. Non pas ce qu'il dit qu'il fait, non pas ses bonnes intentions proclamées. Non récupérable parce que Noam Chomsky s'en prend au clergé séculier de ce système, les intellectuels de pouvoir et les experts au service de ce pouvoir. Non récupérable parce qu'il s'en prend à l'appareil de légitimation du système et de ses intellectuels de cour, c'est-à-dire les médias de masse. Non récupérable, enfin, parce que tout cela, Chomsky le fait sans emphase, sans élever la voix, sans se bercer de mots, mais en énonçant des faits, des dates, des noms. Autant de crimes impardonnables, tant il est vrai qu'une critique sensible précise ne gêne personne, et surtout pas les cibles qui ont été épargnées. Épargnées parce qu'elles avaient le pouvoir de faire payer cher ceux qui les mettraient en cause. Chomsky s'en prend au cœur du système. Il interroge la légitimité des actes du pouvoir. Une part importante de ses travaux a concerné un aspect essentiel de la politique américaine, sa politique étrangère, sa politique impériale. Démocrates et républicains se retrouvent dans l'idée que les États-Unis sont bons et qu'ils font le bien, que c'est en tout cas leur intention. Parfois, admettent-ils, l'exécution est déficiente, mais le destin était bien de faire le bien. Pour discuter rationnellement ce postulat, Chomsky n'a pas cherché à provoquer, à attirer l'attention des médias par des actions d'éclat. Il a lui-même conduit ce qu'il recommande aux autres de faire, un processus continu d'éducation, d'organisation, de résistance et de construction d'alternatives. Or, c'est un travail très fastidieux de confronter un énoncé et une réalité. Il impose de s'informer en permanence, d'interroger, de comparer, de mettre en rapport des éléments que le flux de l'information tend à séparer, de lutter contre l'amnésie. Et alors, quand on fait tout ça, ça ne colle pas toujours avec la bande dessinée officielle. Les méchants islamistes afghans ont d'abord été des gentils islamistes afghans. Ils sont aujourd'hui méchants et oppriment les femmes quand ils s'attaquent aux puissances occidentales. Ils étaient gentils et ils exprimaient leur identité religieuse, certes un peu traditionnaliste, quand ils opprimaient les femmes, mais s'attaquaient à l'Union soviétique, que Ronald Reagan qualifiait avec finesse d'empire du mal. On n'est tout de même pas obligé d'oublier cette histoire. Et Noam Chomsky nous la rappelle. Chomsky est également non récupérable parce qu'il n'hésite pas à s'en prendre aux intellectuels. Impossible en France d'évoquer les intellectuels sans faire référence à Zola, à l'affaire Dreyfus, à Sartre, au porteur de valises en Algérie, à Bourdieu, au soutien au mouvement social de novembre-décembre 1995. Mais plus souvent, les intellectuels ont formé le clergé séculier du système. Chomsky a souvent mis en cause les nouveaux mandarins, ces intellectuels de pouvoir au service de l'État et souvent du capital des multinationales. La nocivité de leur action a prouvé qu'il était indispensable de ne pas laisser les savants, les experts, s'occuper de ce qui nous regarde. Dans les démocraties, nous explique Chomsky, les idées impopulaires sont réduites au silence sans censure. L'éducation, la presse, les intellectuels définissent les limites du discours acceptable et ils rendent moins nécessaire l'usage de méthodes coercitives, autoritaires, policières. » Fin de citation. Les minorités intelligentes, ou qui se croient-elles, estiment en tout cas qu'elles ont vocation à gouverner et que lorsque le pouvoir, ce pouvoir leur est dénié, c'est que le système ne fonctionne pas, qu'il y a une crise des démocraties. Nous sommes aujourd'hui le 29 mai. Il y a exactement 5 ans, une large majorité des Français a voté contre un traité européen. Les gouvernants, les deux principaux partis politiques, les médias, les intellectuels dominants se sont aussitôt étranglés devant tant d'audace. Et puis, ensemble, ils ont décidé que rien ne s'était passé, que le traité refusé serait mis en œuvre quand même. Cela ne les a naturellement pas empêchés de continuer à protester contre tel ou tel manquement à la démocratie, surtout quand il intervenait à l'étranger, de préférence dans un pays jugé hostile aux intérêts occidentaux. On le voit, l'analyse critique des intellectuels et celle des médias vont de pair, car c'est ensemble qu'ils définissent les limites à ne pas dépasser. Ce sont, nous dit Chomsky, eux qui disent jusqu'où il est permis de s'aventurer. Avec lui, aujourd'hui, nous sommes à peu près assurés de nous aventurer au-delà de ces discours autorisés. Merci.